Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC en mode warm-up. Vous en avez pris l'habitude, c'est le rendez-vous de la saison avant chaque Grand Prix. On analyse, on décortique, on se plonge dans le week-end de course qui nous attend. Ce sera à suivre sur RMC à partir de samedi. Ce Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, 15e manche de la saison. Il reste 10 Grands Prix, c'est simple, jusqu'à la fin de cette année 2025. Et la lutte est extrêmement serrée entre Norris, Piastri pour le titre de champion du monde. Nos ingénieurs sont rentrés de vacances. Il est bronzé, mais alors bronzé comme jamais, entre deux cuisses de Rotten sans flamme. Louis Gerbier est avec nous. Salut Loulou.
Salut Nico. Salut tout le monde. Salut Sarah.
Non mais je te chambre, mais par contre, t'as fait du vélo cet été, mon gars.
Ouais.
Je t'ai suivi sur les réseaux sociaux là. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a monté le ventoux ou pas?
Non, l'Alpe d'Huez et la col de la Croix de Fer dans les Alpes.
Ça, c'est solide, ça.
J'ai rarement autant souffert.
C'est vrai, t'as galéré vraiment.
Ouais, c'était dur, mais bon, tu vois, c'était un peu des rêves de gosse, et donc quand t'arrives là-haut, ça manquait de prépa aussi, pour être franc.
Ah, mais c'est peut-être ce que j'allais dire. Ça manquait peut-être un peu de prépa.
Voilà, c'est ça. La prochaine fois, il faudra y retourner avec une prépa un peu meilleure pour prendre plus de plaisir, mais quand même, c'était très cool.
Il y a beaucoup de pilotes de F1 qui adorent rouler d'ailleurs.
Carlos Sainz,
c'est un rouleur.
Bon niveau même.
Ça roule très fort. Séraphin Bet est avec nous. Salut Séraphin.
Salut Nico et salut Louis.
Bon les gars, du coup au programme, je le disais, le Grand Prix des Pays-Bas. Et puis on va parler d'une écurie de F1 qui a officialisé son duo de pilotes en 2026. Ça y est, on connaît les pilotes Cadillac les gars. Je ménage le suspense, mais c'est deux pilotes qu'on connaît très très bien. Allez, c'est parti pour ce warm-up du Grand Prix des Pays-Bas. La F1 qui va terminer son année en commençant par le Grand Prix de Zandvoort. Hein. On a quitté cette trêve estivale de 3 semaines. On a vu Charles Leclerc sur son yacht. Les vacances assez sympas hein, des pilotes de Formule 1. J'ai vu que Carlos Sainz avait fait de l'apnée. Globalement, ils sont sur des yachts. On n'est pas sur des petits bateaux. On n'est pas sur un petit Zodiac.
ni au camping.
Ni au camping.
Beaucoup dans le sud de la France en plus. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. La Côte d'Azur.
Ouais, t'as raison. Je me suis fait la réflexion. Il y en a énormément qui passent leurs vacances dans le sud de la France. Du coup, ils sont arrivés à Zandvoort et là, ça va pas être la même musique parce que la météo n'est pas au rendez-vous. Et là, ils vont pas être sur leur yacht. Là, ça c'est une certitude parce qu'on annonce beaucoup de pluie. On va y revenir. Je vous donne juste le programme de ce Grand Prix. Ça commence à partir de demain, vendredi, midi et demi, la première séance d'essai à 16h, la deuxième. Les qualifs à partir de 15h le samedi à suivre en direct sur RMC avec Jean-Luc Roy et la course dimanche à 15h. Ouais, la première info, les gars, de ce week-end, c'est qu'on annonce de la pluie. On annonce de la pluie sur les 3 jours de roulage. Hein.
Donc, ouais, moi j'ai regardé un peu d'ailleurs
de pluie,
en détail.
Hein, Séraphin.
Ouais, j'ai regardé à l'heure actuelle, évidemment, ça prend avec des pincettes. Là, on est le jeudi après-midi, mais c'est 90% de risque de pluie le vendredi, 60% le samedi et 70% le dimanche. Et pas mal de vent aussi, hein. Y a du vent annoncé, j'ai vu 45-50 km/h un vent de sud, donc le vent aussi joue beaucoup à travers les dunes. Donc t'as raison, c'est une variable qui est à prendre en compte et c'est sûr que s'il y a un grand prix ou des conditions changeantes, ça peut nous rendre une course croustillante. Hein. On se souvient de 2023 où ça avait été le cas d'ailleurs.
C'est clair. Dans cette course-là, à travers ces dunes de la mer du Nord et ces murs orange, Max Verstappen le disait, il était en conférence de presse tout à l'heure. Louis, c'est bien évidemment un week-end ultra particulier pour lui. Même si sa voiture n'est pas au rendez-vous, et c'est ce qu'il disait pour cette année, ça risque d'être compliqué. Ce mur orange-là, à chaque fois qu'il accueille, c'est une date particulière, Zandvoort, hein, dans l'année, dans le calendrier de Formule 1. Bah, déjà, c'est un circuit historique, hein, il faut le dire.
C'est un circuit historique qui avait disparu longtemps et je pense quand même que son retour n'est pas étranger au fait qu'il y avait un pilote néerlandais sur la grille qui cartonnait tout ou du moins qui était le futur prodige annoncé et c'est, je trouve ça cool, je trouve que c'est important d'avoir un grand prix dans le pays où le meilleur pilote du moment d'où vient le meilleur pilote du moment pardon et le grand prix historique, sa qualité c'est que justement il est unique, il a un tracé assez étroit, des choses comme ça. Mais l'année dernière, j'avais déjà dit, c'est vrai que moi, je suis pas un grand fan parce que justement, ouais. C'est très étroit et c'est ça fait un peu partie des quand même des grands prix où bah c'est quand même un grand prix un peu du samedi dans le sens où il va pas, tu vas pas faire une remontée fantastique. Tu peux dépasser quand même, c'est pas Monaco non plus. Mais faut bien se préparer, faut attendre le bon virage, avoir un peu de chance, comme on dit souvent, il faut espérer que le gars de devant il mette un peu du sien aussi. Enfin voilà, c'est pas forcément le Grand Prix spectacle, même si vous l'avez dit, on peut quand même voir de belles courses là-bas. Et ce qui est toujours sympa, c'est aussi tout simplement les plans qu'on peut voir à la télé ou quoi. T'as la mer juste derrière, t'as les dunes de sable. C'est vrai que ça, c'est assez atypique de se dire qu'on a fait un circuit là-dedans. Et puis t'as le virage banking qui,
ouais, le virage 3
qui est marrant, mais finalement qui n'a pas énormément d'intérêt parce que certes il y a deux lignes, mais en fait tu doubleras pas en prenant une autre ligne, quoi. Enfin, donc tout le monde se suit un peu, ça peut vite faire train-train, et c'est un peu ce qui on va dire ce qui fait que je suis toujours pas hyper emballé avant Zandvoort.
Ça peut faire un peu procession, c'est clair. Ouais. Séraphin, quand on regarde de toute manière, depuis le retour de la F1 à Zandvoort en 2021, le poleman s'est toujours imposé. Hein. Trois fois Verstappen, 2021, 2022, 2023. Et l'année dernière, c'est Lando Norris qui s'est imposé aux Pays-Bas.
Ah, exactement. Ça montre les caractéristiques de circuit qui est très étroit. J'ai été, en plus, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être à Zandvoort. Et c'est vrai qu'il est très particulier. Il a quand même, je trouve qu'il a quand même une âme, justement, le fait de, que ce soit dans les dunes, près de la mer, il est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'on sait aussi que c'est l'avant-dernière édition du Grand Prix, parce que la dernière édition devrait avoir lieu en 2026, avant peut-être une alternance. Pour l'instant, il n'y a pas encore de prolongation qui a été faite sur ce tracé. Et oui, c'est un petit circuit, hein, 4,25 km. On a quand même deux zones effectivement de banking avec le virage qui est incliné, et même jusqu'à 19 degrés, hein, sur le virage 3. C'est vrai que c'est assez fort. Et c'est vrai que oui, c'est un circuit qui est historique, hein, qui a été créé en 1948, hein, si on remonte un peu à ces histoires, jusqu'en 1985, comme le disait Louis, il y a eu une période d'alternance. Et donc c'est vrai que c'est un petit circuit, hein, j'avais regardé un détail, le record de la piste, c'est 1,08885, et c'était Mike Verstappen en qualification en 2021.
Ouais. Ouais, je crois qu'en course c'est Lewis Hamilton qui détient le record là en 2021.
Oui, tout à
aussi.
Fait.
Toi qui étais l'année dernière, parle-nous un petit peu de l'ambiance quand même, parce que on connaît la passion des fans hollandais quand ils se déplacent pour les compétitions de football. À chaque fois, c'est une armée orange. Est-ce que c'est la même chose là quand Verstappen court à domicile? Ça doit être vraiment très particulier, ça.
Ah oui, c'est assez drôle, c'est à faire, parce que il y a ce côté où tu l'as dit, tout le monde est là pour Max Verstappen, il y a du orange partout, et en plus même ce que je m'avais marqué aussi, c'est que même dans les haut-parleurs autour de la piste, t'as toujours de la grosse musique néerlandaise qui tape fort. Donc ça, c'est assez drôle. T'as aussi la fan zone comme il y a toujours, où t'as les artistes aussi sur place. Donc bien sûr que évidemment Verstappen est le héros local tout autour de Zandvoort aussi, qui est la ville qui est collée. On a partout des drapeaux, des gens qui viennent en caravane avec des barbecues. Il y a une ambiance qui est assez évidemment qui est assez particulière, et voilà, ça fait aussi le charme.
Ça peut un peu taper sur le casque quand même, la grosse musique hollandaise là toute la journée.
Ah ouais,
à la fin
t'en as un peu marre, mais c'est assez drôle, donc je trouve ça sympa quand même.
Bon les gars, on va se projeter sur cette fin d'année 2025. Louis, je vais te poser la question. Il y a toujours des dates charnières dans une saison de Formule 1. Alors bien évidemment, ce Grand Prix, il n'est pas déterminant pour la suite. Il restera des courses derrière. Mais malgré tout, le premier Grand Prix post-vacances, post-silly season, là, cette trêve un peu estivale, c'est toujours spécial. Et donc du coup, on se dit que ça peut avoir un petit impact, notamment sur les deux pilotes qui occupent la tête du championnat, Oscar Piastri et Lando Norris. Surtout que la dynamique, elle est plus en faveur de Lando Norris, et je le disais, c'est lui qui s'est imposé l'an dernier. Donc voilà, comment tu te projettes sur cette fin d'année et plus globalement sur cette course là parce que si Norris continue d'avoir cette empreinte sur Piastri, ça peut-être le lancer pour toute la fin de saison, quoi.
Ah oui, il reste quand même dans un mouchoir de poche, donc c'est clair. Va falloir voir un peu comment chacun a digéré ses vacances. Est-ce que la trêve finalement arrivait au bon moment pour Norris? Peut-être pas, parce qu'il était justement, comme tu l'as dit, en train de de reprendre le dessus. Il aurait préféré une trêve début mars, lui, tu vois, par exemple. Enfin, mi-mars.
C'est clair.
Ça va peut-être pas l'avantager, parce que peut-être que, justement, Piastri a fait du frais et est redescendu un peu d'un niveau, a remis les choses en ordre et va redevenir le Piastri du début de saison. Auquel cas, ce serait compliqué. Mais du coup, moi, j'attends vraiment beaucoup ce retour de la F1, parce que on a envie de voir vraiment comment ça va évoluer. Et je t'avoue que depuis le début, je disais que Norris allait avoir du mal, mais serait pas loin. Et je me demande si à la toute fin, quand même, il va pas y arriver, parce que je le trouve mieux. Je pense que vraiment, comme tu dis, cette course, elle peut être charnière, parce que tu lances une nouvelle dynamique. Il va rester quand même suffisamment de Grand Prix pour qu'il se passe tout et n'importe quoi dans les deux sens. Norris a gagné là-bas déjà. Ça peut être un week-end pour lui, ou en tout cas, c'est clairement un week-end où s'il arrive à être devant Piastri, il va vraiment cette fois instiguer le doute, tu vois. Je pense que ça peut commencer à trotter dans la tête de l'autre qui s'était dit bon, allez, c'est les vacances, je vais revenir plein badin, ça va y aller. Si Norris là, il est devant dimanche soir, Piastri, il a beau être fort, froid, il reste jeune et ça peut le déstabiliser, ça peut commencer à le déstabiliser. En revanche, je pense que quand même, sur un Grand Prix comme celui-là, on ne verra pas grand monde au niveau et que ça va vraiment se passer entre deux. Quoi.
Ça va se passer entre les deux. Tiens, je rappelle les stats, hein. Il y a 9 points d'écart entre les deux pilotes déjà au championnat du monde. Je redonne ce petit chiffre. Norris s'est imposé 5 fois cette saison, Serafin, 6 victoires pour Piastri, mais Lando Norris a remporté 3 des 4 dernières courses. Et ça c'est très important. On sait qu'en Formule 1, Serafin, la dynamique est super importante en sport auto. Est-ce que ça trêve, ça casse cette dynamique forcément un petit peu? Malgré tout, là, la confiance, le baromètre de la confiance, il est plutôt en train de pencher en faveur de Lando ces derniers temps. C'est fou parce que ça contraste complètement avec les analyses qu'on pouvait faire peut-être en mars.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, hein. Tu l'as dit, il y a eu un changement depuis les 4-5 courses là, et en fait c'est là où ça va être extrêmement intéressant à voir comment ils vont entamer ce retour, parce que tu l'as dit, il y a un vrai bol d'air frais avec cette pause, donc ça va être déterminant, je pense, au niveau mental, parce que si Norris confirme et qu'il finit effectivement devant son coéquipier, alors déjà effectivement les points sont très serrés, donc il pourrait peut-être reprendre la tête du championnat, ce qui lui permettrait en plus de se détacher, de pouvoir vraiment prendre le lead. Ou à l'inverse, si Piastri montre qu'il a les crocs et qu'il gagne cette victoire, eh ben ça va être déterminant. Et effectivement, avec 9 courses qui restent, d'ailleurs tout à l'heure tu avais dit il y a 7 du course, mais il y a 9, il y a encore beaucoup de points quand même à distribuer. Et aussi, ce qui est important à prendre en compte, je trouve, c'est aussi, on se rappelle qu'on est sur la fin de cette réglementation. Il reste 9 courses. On sait que les voitures ne vont plus du tout évoluer. Tout le monde est projeté sur la saison 2026 et surtout les changements. D'ailleurs, il y a certaines directives de la FIA qui sont sorties en début de semaine. Donc, les voitures sont figées. Elles vont plus évoluer. Ils ont leur monoplace qui est à leur niveau. Et maintenant, c'est à eux de faire effectivement la différence et de battre son coéquipier. Donc, ouais, j'ai hâte aussi de voir cette lutte entre les deux.
Bah, Norris était en conférence de presse d'ailleurs tout à l'heure. Hein. On n'a pas encore les sondes disponibles, mais ça vient de se terminer aux Pays-Bas. Il a d'ailleurs une déclare assez. On forme un petit peu d'hommage à Andrea Stella sur le fait qu'ils aient permis avec Zach Brown aux deux pilotes de se bagarrer comme ça. Louis, parce que Norris disait dans plusieurs équipes, on aurait décidé de me sacrifier en gros et de tout miser sur Piastri. Et donc du coup, je ne le remercierai jamais assez de nous laisser quand même continuer à nous battre tous les deux à ce moment-là de la saison. Ça, c'est vrai que c'est quand même heureusement qu'il y a eu cette décision de McLaren cette année, sinon on s'ennuierait ferme. Hein.
On a souvent parlé justement de leur gestion des deux pilotes et peut-être celle de l'année dernière où on les a chicotés quand même en disant les gars, il y a un moment, il va falloir prendre une décision quoi, parce que vous êtes sûrement en train de perdre le championnat pilote à coup sûr à faire comme ça, et peut-être même vous n'aurez même pas le constructeur qui leur tendait les bras complètement quoi. Et c'est vrai que c'est d'un point de vue quand on se met à leur place ou d'un fan de McLaren. Mais c'est vrai que d'un point de vue comme nous, d'observateurs, de fans, Bah heureusement quoi, enfin ça sauve toute la saison, parce que c'est vrai que regarde là où on a commencé ce podcast on a parlé que de deux pour le moment, parce que c'est l'attraction, c'est la rivalité de l'année et le sel de la saison. Donc c'est clair que chez McLaren, je sais pas si ça part à la base finalement presque d'un manque de courage de prendre la décision. Mais à terme, bah pour nous c'est une bonne nouvelle et pour Norris aussi, parce que c'est comme tu dis, pour celui qui a mal commencé, ça peut vite fait être fini pour lui pour toute la saison. Bah mon gars, attends, t'as été mauvais sur les quatre premières, t'as 20 points de retard maintenant, tout pour Piastri. Et ça aurait été dur pour Norris, mais ça aurait été dur pour nous tous. Or là voilà, et puis bon, c'est quand même, on en revient au principal de ce sport, c'est l'essence du sport, c'est la bataille, il faut les laisser se battre. Et donc bah ça c'est super beau et j'espère que finalement la décision de McLaren est plus tu vois philosophique justement que finalement un manque de prise de décision. Et qu'il soit dit non, mais des pilotes, c'est fait pour se battre. Et tant qu'ils ne nous trahissent pas non plus, y a Piastri qui a fait deux moves cette année où on a pris la radio pour lui dire « Attends, mon gars, là, on a dit on se bat, mais on n'a pas dit on fait n'importe quoi. » Mais à part ça, ils n'ont pas non plus encore trop fait n'importe quoi. On se rappelle évidemment du Canada. Et bon, voilà, ça peut arriver aussi, tu vois, c'est arrivé, ça arrive à d'autres, je veux dire, c'est pas forcément que tu as déconné, c'est qu'il y a un moment, bah, quand tu es à 300 km/h à roue contre roue, oui, parfois ça peut toucher.
Ouais, et puis surtout qu'en plus, le team, pour le coup, a super bien géré, les pilotes aussi, cet après incident,
oui,
quoi.
Oui, la gestion post-incident a été plutôt bonne, ouais.
Ça a été top. Tiens, un petit éclat de Lando Norris avant de se projeter sur la fin de saison de Ferrari. Tout à l'heure, en conférence de presse, il a dit, je dirais jamais que je suis dans un bon élan parce que j'ai gagné deux courses. Remporter deux courses d'affilée, ça veut pas dire que j'en aurai une troisième. Vous savez, c'est tellement serré dans notre sport. Mais si vous me demandez, est-ce que la confiance est là pour ce week-end? Je vous réponds franchement oui. Donc voilà, on a un Lando ferme.
C'est ça, et c'est clairement un discours qu'il n'aurait jamais tenu il y a quelques mois. Quoi.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, tu sens que le discours a changé, voilà, même face à la presse. Séraphin, moi je voulais te poser aussi des questions sur Ferrari. On sait que c'est un peu l'attraction quand même, la Scuderia, derrière la lutte pour le titre.
Gros dossier.
Comment tu te projettes un petit peu pour cette fin de saison? C'est vrai que dans le podcast de lundi, qui est toujours disponible, si vous nous écoutez, le warm-up, vous le savez, désormais, c'est notre rendez-vous du jeudi. Et lundi dernier, il y a un épisode qui est disponible, qu'on a fait spécialement pour vous, où on a noté un petit peu cette première partie de saison. Et c'est vrai que la Scuderia, ça a fait un vrai débat dans l'équipe du paddock. Du coup, toi, comment tu vois cette fin de saison 2025?
Bah déjà, je les vois se maintenir à une deuxième place, parce que pour le moment, voilà, ils sont toujours deuxième à 24 points pour être précis de Mercedes. Donc j'espère qu'ils vont garder une dynamique quand même de se rapprocher, en tout cas pour Charles Leclerc, des podiums, qui va lui réussir de son côté à garder la dynamique qu'il a. Et en fait, moi je vais attendre beaucoup, comme beaucoup d'ailleurs de passionnés en ce moment en F1, c'est Lewis Hamilton. Comment il va aborder cette fin de saison? Lui qui est sixième quand même au classement des pilotes avec 109 points face à son coéquipier. J'en attends beaucoup en fait de Lewis Hamilton. Comment il va réussir à réagir? Est-ce qu'il va continuer cette situation très compliquée avec la voiture et à difficilement performer? Ou alors est-ce qu'il va avoir, on va avoir un petit peu de mieux? Est-ce que cette pause peut-être lui a fait du bien? En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Et puis, je voulais apporter aussi une petite précision sur ce Grand Prix. On n'en a pas parlé juste avant, mais que la voie des stands, j'ai vu, ils ont augmenté un peu la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse de passage d'un voie des stands sera élevée de 60 à 80 km/h. Et aussi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait un train de pneus plus tendre face au train de pneus l'année dernière. Donc, c'est les C2, C3 et C4, ce qui a aussi privilégié une course avec plutôt un arrêt. Ce qui avait été d'ailleurs majoritairement fait l'année précédente. Donc j'attends de voir Ferrari, comment Lewis Hamilton va réagir et en tout cas s'il réagit ou pas sur cette fin de saison.
Mais c'est ça en fait la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il est en capacité de réagir, Louis? Parce que Bon, ok, l'adaptation, le contexte, on est d'accord. Même pour un septuple champion du monde, c'est difficile. Il a tout changé. Ok, sur ça, on est d'accord. Mais bon, là, au bout d'un moment, l'argument de l'adaptation, il va finir par plus tenir.
Bah, c'est ça, globalement, dans le monde de l'entreprise, c'est quoi ? C'est 3-6 mois, une période d'essai à peu près ?
Ouais,
c'est ça. Là, on y est, donc... Bah moi je vais vous dire quelque chose, j'ai toujours voulu y croire, mais là je serais très 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 surpris qu'il y ait une réaction. J'avoue que je m'attends à une fin de saison un peu sur les mêmes auspices que son début, c'est-à-dire voilà, peut-être un demi coup d'éclat mais pas plus, et puis sinon on est derrière Charles et voire derrière une ou deux voitures moins rapide et quelque chose d'un peu neutre, quoi. Malheureusement, je vois pas la lumière pour Lewis. Alors peut-être avec la nouvelle voiture, mais en tout cas là sur cette fin de saison, moi je suis quand même plus que dubitatif. Hein, je suis assez pessimiste même.
Est-ce que vous y croyez, vous, à une victoire d'une Ferrari jusqu'à la fin de saison ?
Ah, d'une Ferrari peut-être, mais je voilà, si j'avais ma maison à mettre, je mettrais sur Charles si Ferrari doit gagner.
Ouais. Ah, moi j'y crois pas, je les vois pas gagner.
Ah, moi aussi, j'avoue que vu la domination McLaren, faudrait des circonstances de course particulières.
Oui.
Quand tu vois que sur la première moitié de saison, t'as que 3 victoires d'un pilote qui n'est pas chez McLaren, 2 pour Verstappen, 1 pour Russell. Bon, déjà, tu te dis qu'il va y avoir vraiment peu de miettes sur la table pour les autres. Et en plus, parmi les autres, est-ce que Ferrari va réussir à tout mettre sur un week-end, tu vois, pour être cette équipe qui va en chercher une? Franchement, je suis pas certain. Les gars, est-ce que vous avez un petit peu des projections ou en tout cas des attractions là pour cette fin de saison? Voilà, est-ce que vous allez avoir les regards qui vont traîner sur un pilote en particulier, un team, Serafin?
Bah, moi je dirais toujours, j'aime bien observer de près les rookies de cette saison, et puis notamment le français Isaac Hadjar, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a le fameux deuxième baquet à côté de Max Verstappen qui pourrait l'année prochaine lui revenir. Donc il va falloir observer aussi comment va se dérouler, et j'ai hâte de voir comment il va dérouler ce dernier tiers de saison, on va dire, en plus face à un coéquipier Liam Lawson qui fait des bons résultats dernièrement. Donc de façon globale, effectivement, les rookies, Antonelli aussi, bien sûr, hein, il y a un passage à vide là depuis plusieurs compris. Donc moi je vais continuer de l'observer, et je trouve ça intéressant. Ils sont quand même impressionnants, honnêtement, les jeunes.
Ouais, il a parlé en conférence de presse de son avenir, Isaac Hadjar, tout à l'heure. Bon, il a rien dit, hein. Il a dit qu'il était au courant de rien, qu'il était concentré. Voilà.
Ouais, il reste focus il a raison, sur la saison actuelle. Il ne faut pas, pas trop se projeter pour lui.
Exactement. Mais en plus, je suis pas sûr que ce soit une super nouvelle. Là. Quand tu as cette rumeur autour de toi là, de prendre le deuxième paquet derrière Verstappen, je sais pas si ça t'enchante vraiment. Donc, c'est peut-être un truc que tu as envie d'écarter de ton cerveau.
Ils n'ont pas beaucoup de choix chez Red Bull. Hein. Ils sont un peu dans une situation. On sait qu'il y a Lindblad, pilote là, de Formule 2, qui a eu sa super licence. Aussi une pépite du côté de chez Red Bull, mais c'est vrai que le choix semble assez restreint de leur côté. Donc,
Mais après, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais il y a aussi le choix de faire venir un pilote de l'extérieur, non ? Ça peut arriver, ça, une signature de l'extérieur.
Ouais, ouais. Hors de l'académie Red Bull, ça pourrait. J'ai du mal à imaginer de mettre un pilote, il faudrait un pilote avec l'expérience, mais là, par exemple, les anciens qui étaient encore en dehors du terrain, ils sont intégrés dans une nouvelle écurie. Donc c'est vrai qu'un pilote d'expérience, c'est... Il y a Drugovic, par exemple, hein, qui est de chez Academy Aston Martin. Et peut-être, mais ça pourrait être une solution, t'as raison.
Non, mais même quelle que soit la décision prise, il y a un moment, il faut aussi peut-être que Red Bull prenne conscience que c'est peut-être pas à chaque fois le problème du deuxième pilote. C'est peut-être un peu plus que ça, parce qu'ils vont... Ils vont tous les écumer, en fait, un. Ouais, ils vont passer toute leur académie. En fait, toi, t'es nul. Non, je pense pas que les gars, si vous les avez choisis à 14 ans et que vous les avez emmenés jusqu'en F1, ils sont pas nuls, en fait. Il y a d'autres soucis, il y a d'autres choses. Il faut peut-être faire en sorte, alors je sais pas si c'est réalisable ou pas, mais trouver le moyen que la personne qui est dans la deuxième voiture fonctionne un peu, parce que L'année dernière, ça leur coûte un titre constructeur. Et cette année, ça leur coûte sûrement cher en développement pour rattraper les quelques retards ou quoi, parce que tu progresses qu'à une voiture. Donc, c'est aussi une stratégie, ou du moins, je sais pas si une stratégie, mais une situation qui n'est pas bonne finalement au fond pour Red Bull. Donc, elle est pas bonne pour ces pauvres gamins, comme j'aime les appeler, ces pilotes qui se sont fait broyer dans la lessiveuse Red Bull. Mais c'est pas bon pour l'écurie non plus finalement, parce que déjà maintenant leur baquet fait peur, et surtout parce que pour moi ça les handicape quoi.
C'est fou comme t'es passé d'un baquet que tout le monde avait envie d'occuper à un baquet qui maintenant peut repousser.
C'est complètement fou. Ouais.
Les gars, il y a une nouvelle qui est tombée cette semaine. On en a beaucoup parlé dans le paddock. Cadillac, vous le savez, sera sur la grille en 2026. Bon, on savait vers qui l'écurie américaine regardait pour occuper ces deux baquets, mais malgré tout, c'est officiel. C'est Rafin, Sergio Pérez et Valtteri Bottas, le plus beau mulet de la Formule 1, peut-être même le plus beau mulet du monde, parce qu'il a vraiment du flow, Valtteri, avec son mulet. Seront titulaires en 2026. Ça représente quasiment 600 Grands Prix à eux deux. Quand même, ouais. Une expérience de dingue. Qu'est-ce que tu penses de ce choix ? Alors, c'est deux seconds pilotes sur le papier, un petit peu dans le statut, Sergio Pérez et Bottas. Ce sont surtout deux pilotes très très expérimentés pour développer la voiture. On se dit que c'est pas une mauvaise idée, non ?
Moi je trouve ce choix après réflexion et analyse un peu de leur situation, je trouve ce choix plutôt pertinent. Parce que tu l'as dit, ouais, c'est deux pilotes qui ont beaucoup d'expérience, hein, quand même 14 saisons pour Sergio Pérez, 12 pour Valtteri Bottas, des pilotes qui ont quand même un certain âge, hein, ils ont 36 ans, donc il leur reste plus non plus énormément d'années encore en Formule 1, quoique, hein, quand on voit Fernando. Mais je trouve que c'est un choix en fait intéressant, parce que arriver dans une nouvelle réglementation, quand même, avec tout qui est nouveau pour la Formule 1 l'année prochaine, partir de zéro, hein, voilà, avec un moteur qui va être d'abord celui de Ferrari, puis après ils vont développer le leur. Eh ben, c'est intéressant d'avoir deux pilotes comme ça très expérimentés qui vont apporter beaucoup à l'écurie. C'est vrai que au début, je pensais qu'ils allaient plutôt, surtout vu que c'est une écurie américaine, avoir un pilote américain, peut-être un jeune. Donc il y avait plusieurs rumeurs de ce côté-là. Et finalement, ils ont fait le choix de la sagesse de pilotes expérimentés. Après, on le sait directement, même si ça n'a pas été officiellement dit, mais Sergio Pérez, évidemment, il est mexicain, donc il y a aussi une grosse part aussi commerciale, évidemment, pour le merchandising et pour toute la communauté aussi sud-américaine. Donc c'est un choix aussi stratégique, mais ça va, je pense, être positif pour eux, pour les aider, en tout cas pour leur arrivée en Formule 1. Donc je trouve que c'est un choix plutôt judicieux. C'est quand même des pilotes qui sont passés par des écuries quand même de pointe, hein. On pense évidemment à Red Bull et Mercedes aussi pour Bottas, des pilotes qui ont quand même fini vice-champion du monde parmi leurs meilleures saisons, donc qui ont aussi eu des victoires, qui ont eu des podiums, qui se sont fait, si on veut aussi aller plus loin, battre par leurs coéquipiers. Donc c'était pas non plus les meilleurs dans leur discipline, mais qui sont passés par beaucoup d'écuries avec aussi pas mal d'années, donc d'époques différentes. Donc c'est intéressant, je trouve, comme choix pour Cadillac.
Ouais, mais c'est des mecs, t'as raison, c'est des mecs qui savent gagner, Louis. Pérez et Bottas, c'est 16 victoires en Grand Prix, c'est 100 podiums. Enfin voilà, c'est des gars qui savent comment accéder à ce niveau-là.
Ah oui, c'est moi je pensais à la base qu'il y aurait l'un des deux et que le deuxième serait plus jeune. J'ai été un peu surpris de voir qu'ils sont allés à fond dans l'expérience et sur ces deux profils. Mais clairement, voilà, c'est des pilotes qui, dans leur carrière, ont prouvé suffisamment et ont été suffisamment forts pour atteindre, on va dire, un second baquet d'une top écurie. Et qui du coup ont rencontré meilleur qu'eux. Mais bon, ça arrive, hein, quand t'es dans un monde où t'as Verstappen et Hamilton, ils se sont fait battre par un quadruple et un cette fois
septuple.
Ouais, je galère un peu après 6. Champion du monde. Donc ils ont pas perdu, ils ont pas perdu contre Thierry qui a fait 3 bons tours au karting quoi. Et donc ça reste des très bons pilotes, c'est peut-être pas le top niveau, mais je pense que quand tu arrives déjà un top niveau, tu peux pas l'avoir parce qu'il y a trop d'incertitudes pour lui pour aller venir dans ton baquet quoi. Et donc une fois qu'on a dit ça, je pense que le choix est bon. Ma deuxième surprise a été l'absence d'un Américain. Oui. Je lisais un papier de confrères qui expliquait que finalement c'était peut-être aussi des difficultés structurelles de faire venir un pilote américain en F1 avec tout ce qu'on connaît de super licence, de décès, de enfin voilà, tout plein de choses qui font que la culture de la course aussi, parce que ça reste des monoplaces, mais il y a rien de plus différent qu'une course de F1 que d'IndyCar, donc c'était peut-être pas si simple. Donc dans le contexte actuel, je trouve que le choix il est quand même pas mal, et tu te retrouves l'année prochaine avec pour commencer quand même un line-up qui va pouvoir te faire progresser une voiture qui normalement va pouvoir te l'amener à peu près à ce qu'elle peut donner de maximum. Et donc voilà, après la chose qui m'a fait beaucoup rire sur les réseaux cette semaine, c'est de dire waouh, ce sont deux seconds pilotes, donc qui sera le second pilote du second pilote.
Ah oui.
Donc, parce que c'est vrai que bon, ils ont un peu ça, comment dire, cette étiquette collée dans le dos de second pilote, mais moi je suis très content, et puis surtout pour Valtteri que j'ai toujours beaucoup aimé. En plus que c'est un collègue cycliste.
Donc, ah ouais, lui aussi. Ouais. Ah, je savais pas qu'il roulait Valtteri.
Gravel. Ah, puis à fond, oui. Hein, il fait les championnats du monde amateur et tout. Hein,
Ouais,
il a la marque allemande de vélo, la Canyon, qu'il a sponsorisé et tout. Donc, enfin, tu vois, genre, il a son petit niveau aussi. Mais ouais, moi j'aime bien le personnage. Je le soutenais pas mal quand il était un peu critiqué en fin de Mercedes avec Hamilton. Parce que je trouve quand même qu'il sait être rapide en fait. Je pense qu'il lui manque un peu de consistance, peut-être un peu de dents qui rayent le parquet, tu vois. Mais c'est un pilote qui sait être rapide.
Carrément.
Et puis c'est un bon rebond pour eux quand on sait quand même leur fin de carrière. Quand on se remet en contexte, la fin de Bottas qui avait passé quand même 3 ans chez Alpha et qui avait son contrat qui n'était pas renouvelé. Pareil pour Perez qui avait eu quand même après être arrivé chez Red Bull en 2021. Là, c'est 2-3 années très compliquées. C'est aussi une belle seconde chance et en tout cas un nouveau projet pour eux qui va leur faire du bien et qui les fait revenir, donc ça va être intéressant aussi à ce niveau-là.
C'est clair qu'ils n'avaient pas eu une sortie dingue par rapport à ce qu'ils avaient montré toutes ces années en Formule 1. La sortie avait été compliquée. Leur retour a été salué hein, cet après-midi là à Zandvoort. Max Verstappen a dit, je lui ai tout de suite envoyé un message à un super mec en parlant de Sergio Perez. Franchement, tous ceux qui sont passés au micro ont salué le retour de Perez et de Bottas. Et puis, les gars, on est d'accord pour dire qu'un an d'absence... Ça va, ils ont pas tout perdu en un an globalement. Bottas et Perez, ils repartent pas de zéro quoi. Hein,
ouais, non, clairement pas.
Non. Puis Bottas était aussi chez Mercedes, donc
en plus,
il était aussi au développement, il me semble, de la voiture, donc il faisait beaucoup de, voilà, il était présent, on voyait beaucoup sur les GP, donc non, pour eux c'est pas embêtant. D'autant plus, on le rappelle, avec ce changement l'année prochaine total de la F1 qui va presque être toute nouvelle. Donc ça aussi, ils vont être finalement un peu sur le même pied d'égalité face aux autres pilotes. Ça va aussi les aider, je trouve, finalement pour intégrer. Après, tant qu'on n'a pas vu la voiture en piste, on ne peut pas se permettre pour l'instant de donner des billes là-dessus,
des parce projections, que voilà,
on ne sait pas comment ça va être.
Vous avez vu, les gars, que l'année prochaine, en 2026, on annonce des Formule 1 qui vont dépasser les 400 km/h quand même ?
Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Je lisais également que Pierre Gasly était assez sceptique d'ailleurs sur cette annonce. C'est vrai que moi aussi, parce que je sais pas, c'est bête à dire, mais pour moi, 400 km/h, tu vois, c'est dans mon cerveau, c'est compliqué. Tu sais, en mode genre, quoi ?
C'est 400, un avion.
Ouais, c'est... Ouais. Parce qu'en plus, on se souvient un peu de des vitesses qui ont été atteintes à l'époque. Enfin, je dis on se souvient, non, on l'a lu ou vu, parce qu'on a la chance d'être jeune encore un peu. mais avant la chicane des Hunaudières, où au Mans, les bagnoles dépassaient les 400 jusqu'à ce qu'une s'envole. Et ouais, moi 400, c'est vrai que ça me fait un truc en mode genre, est-ce qu'il y a un certain intérêt finalement sur des circuits comme celui-là, est-ce que il faut mieux pas passer les courbes encore plus vite ou encore mieux que de monter à 400 dans ligne droite. J'ai pas forcément d'avis hyper technique, mais c'est vrai que je suis assez circonspect sur l'annonce des 400 km/h auxquels je crois vaguement, hein, mais bon, s'ils le disent, ils s'y connaissent mieux quoi.
Ouais, c'est Rafin, mais ça va être diffusé en fait. C'est dû à quoi ? C'est le moteur hybride qui est renforcé, c'est ça ? Il y a plus de puissance sur les moteurs ?
Bah c'est ça en fait, on va passer à peu près à 50% de partie électrique et on annonce effectivement des voitures autour de 1000 chevaux. Donc c'est ce qu'on pourrait avoir en ligne droite. Aussi, on rappelle, il y a un changement aussi, hein, le DRS qui va évoluer, on va dire, avec plutôt une partie active qu'on pourra activer, donc le pilote pourra activer les ailerons actifs donc à l'avant et à l'arrière sur une seule partie du circuit, c'est ce qui s'annonce pour leur permettre d'avoir plus grosse vitesse de pointe. Donc je pense que c'est des conditions aussi de 400 km/h peut-être, c'est sur la ligne droite à Monza avec le
c'est
DRF actif.
Ils disent que ce sera à Monza hein, les 400. Ce sera pas sur tous les
donc,
tracés.
C'est des conditions très, je pense, un peu particulières. Après, je vous rejoins sur est-ce qu'il y a besoin forcément de faire des voitures qui vont le plus vite possible. Non, et en vrai, la F1 ça n'a jamais été non plus le but de faire des voitures qui sont rapides. C'est plutôt dans les virages où on a vu des améliorations avec les appuis. Et d'ailleurs. Le premier qui en doute, c'est les pilotes eux-mêmes. Et j'avais lu cette déclaration, justement, que c'était en conférence de presse. Tu l'as dit, Louis, de Pierre Gasly, qui dit « Je ne crois pas ce que j'entends, je ne crois ce que je vois. Je suis sûr qu'on pourrait déjà atteindre les 400 km/h avec les voitures actuelles si on changeait la boîte de vitesse et qu'on rallongeait les lignes droites. » Il a dit même « J'ai essayé la voiture sur le simulateur et je sais dont elle est capable. Je ne sais pas trop d'où viennent ces rumeurs, pour être honnête. » Même lui, il le dit, donc il va falloir encore une fois voir ce que ça va donner réellement une fois qu'on aura les voitures en piste.
Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la FIA va introduire des modes de puissance différents pour deux grands prix, Monaco et Singapour, pour maîtriser la vitesse, hein, pour pas que ça parte dans tous les sens sur ces deux dates.
Finir dans la flotte à Monaco,
exactement.
T'es au
portier. Ah, le tunnel à Monaco, on pourrait atteindre des vitesses.
Donc voilà. Mais sinon, écoute, on va suivre tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des attractions là qui commencent un peu à naître, hein, pour cette saison 2026. Ça va être aussi des choses qui vont tomber tout au long de cette fin d'année 2025, sur l'année prochaine, sur les line-up aussi. Hein, il y a beaucoup d'interrogations encore sur les line-up de pilotes pour la saison prochaine.
C'est pas complet là quasiment. Hein.
Il te reste quand même.
Il y a le second Alpine avec pour l'instant Colapinto.
Il y a la queue.
Effectivement,
hein, le qui fait rêver celui-là.
Red Bull, Racing Bull,
Red Bull. Et après, il y a les baquets Mercedes. Officiellement, ils n'ont pas encore été renouvelés, même si logiquement, ça devrait quand même le faire pour les deux au vu de ce qui s'est passé. Et puis, c'est vrai que tu parlais de 2026. Moi, j'ai regardé en plus par curiosité le calendrier. En fait, ça va aller extrêmement vite. C'est-à-dire que là, on va entamer la fin de saison. Le dernier Grand Prix a lieu début décembre. Et fin janvier, on commence avec les essais libres, justement, pour ces nouvelles Formule 1 à Barcelone. Donc il y aura 3 séances d'essais libres, une à Barcelone et 2 à Bahreïn, et ça va être très rapidement, hein. Il y aura un mois et demi à peu près de pause et on va directement avoir les voitures en piste pour les essais, donc ça va s'enchaîner très vite.
Ah, la trêve hivernale est de plus en plus courte en Formule 1.
Ça, c'est pas plus mal, parce que quand t'es au fond du mois de janvier là, que les semaines paraissent des mois et que t'as même pas ta F1,
t'as rien à faire, ouais. Et que t'as pas ton chocolat chaud devant ta Formule 1 le dimanche.
Donc moi,
t'es malheureux, toi.
Autant s'ils veulent me faire une pause estivale plus longue pour réduire celle d'hiver, parce que bon, l'été on a tous plus de facilité à s'occuper, on peut être en vacances, enfin bref, on a le nez dehors. Mais alors l'hiver, foutez-nous de la F1, quoi.
Bah écoute, après on pense aussi aux gens qui travaillent évidemment dans ce milieu-là.
Non, hein. Mais évidemment, là, il faut et ça, t'as raison de le dire, parce que c'est vrai que
24 courses déjà.
Ouais, 20, mais c'est plus ça, c'est plus à la rigueur, on pourrait réduire les courses pour, enfin bref, les faire moins bosser dans l'année, mais peut-être plus, enfin je sais pas. Ouais. Mais bon, ils bossent déjà beaucoup, c'est vrai.
Ouais, bah c'est vrai que le calendrier il commence à être démentiel, mais c'est un peu dans tous les sports pareil, hein, malheureusement. Les gars, merci beaucoup. Bah, on suit ce Grand Prix de Zandvoort. Je vous rappelle les dates à suivre, importantes clés, hein, notamment la séance de qualif, les horaires à 15h sur RMC avec Jean-Luc Roy. Le dimanche, course à 15h. Et puis nous, on se retrouve lundi avec toute la team du paddock avec Jean-Luc pour débriefer ce Grand Prix des Pays-Bas. Bon, je vous ai pas demandé vos pronos, les gars, mais globalement, une McLaren devant, on est d'accord?
Ouais. Hein,
ouais.
Moi, j'ai même envie de dire Norris.
Ouais, allez. Norris, on croit pas à un exploit de Verstappen à domicile.
Bon, non.
Difficile de juger, ouais. Difficile.
Ouais. Bon, allez, on reste sur ça.
On verra
McLaren, et on se retrouve, ouais, voilà. On se retrouve lundi. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas de noter le podcast, hein, les 5 étoiles sur les plateformes de téléchargement. Je vous le dis à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est super important pour nous et pour continuer à vous proposer des petits épisodes hors format, des inédits. Voilà. Ça nous permet de montrer à tout le monde que, la F1 fait de l'écoute. Et du coup, ça nous permet de produire encore plus de choses. Voilà. Allez, ciao, ciao et à lundi. Bye.
Le paddock RMC.